C'est une révolte.
Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Vive la nation !
Vive la nation ! Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
Ich bin ein Berlin.
Groupir ! Il faudrait groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Groupir !
Alors, bon.
Et toc, remonte ton scribar, Lothar.
Mais si !
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire. Ça commence maintenant.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa.com et vous écoutez La Percée de l'Histoire pour sa 9e émission de la 5e saison. Aujourd'hui, un vaste programme assez chargé. On va recevoir beaucoup d'invités en téléphone et ça va être assez incroyable. Mais pour me joindre, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, évidemment. C'est d'abord Salouane. Bonsoir Salouane, comment vas-tu Salouane?
Bonsoir, tu as répété mon prénom 8 fois.
Non, à peu près 6 fois et demi, tu as mal compté. Dommage, tu vas bien?
Ça va, la forme, on survit.
On survit, carrément.
Ce froid frigorifique.
C'est vrai que tu préfères le chaud.
Pour un homme du désert comme lui, tu parles.
Allez, ça commence ce soir, c'est parti, il vous l'a bien entendu, il est là.
Oh, il est tranchant ce soir, il est tranchant.
Ah, il est prêt, ça va bien Thomas?
Oui, ça va, mais j'aurais la même réflexion que Salouane, il fait trop froid.
Tu as passé en plus une journée tout à fait agréable, puisque rebelote.
Oui, ça y est, ouais, parce que ça faisait longtemps.
C'est les fêtes.
Oui, on a eu une alerte à la bombe, chouette.
Voilà, ça fait à peu près 2 semaines. Hein. Non, une semaine.
3 semaines.
3 semaines, pardon. 3 semaines que voilà. Mais bon, en espérant qu'évidemment la petite personne qui fait ça arrête. Attends, non, on n'est pas là pour. Au revoir, Charlie. Bonne soirée.
Bon. Salut.
Salut. Il passe.
Ah, merci. C'est gentil.
Charlie de l'émission de l'Amphi qui est juste avant nous, que vous retrouvez tous les jours, bien sûr, de 10, je sais plus à quelle heure.
19 à 20.
De 19 à 20, ah, bien sûr. Au programme, journal historique, évidemment, on est le 28 novembre, donc il faudra retracer le 28 novembre dans l'histoire. On enchaînera également avec ta chronique, Thomas, et puis on recevra par téléphone Luc Arbogast. Et oui, Luc Arbogast, mesdames et messieurs, que vous connaissez déjà sûrement. Et puis, on recevra également, juste après, nos amis de Clairbois, donc, qui se situent non loin de Sainte-Suzanne, avec la Ménie de la Ferté Clairbois. Qui se situe donc, je l'ai dit, à Sainte-Suzanne, en Mayenne, c'est pas très loin, c'est à côté, et puis on terminera avec un quiz sur Napoléon. Pourquoi Napoléon? Comme ça, pour le fun, et puis surtout, on aura peut-être un participant tout à fait exceptionnel, on espère.
Le film vient de sortir, en fait.
Et voilà, c'est surtout ça, mais c'est surtout qu'on aura un invité exceptionnel, peut-être, pour y répondre, puisqu'il a révisé. On verra avec lui, on l'a même pas prévenu encore. Bref, on va enchaîner sans plus tarder avec le journal historique du 28 novembre, avec vous d'abord, monsieur Thomas, bien sûr, pour les événements du 28 novembre. Et on démarre donc ce journal historique du 28 novembre. Dans l'histoire, que s'est-il passé, Thomas?
Eh bien, d'abord, le 28 novembre 1284, la voûte du chœur de la cathédrale de Beauvais s'effondre. Haute de 48 mètres, l'équivalent de 20 étages, cette voûte, achevée 12 ans plus tôt, constituait un record pour les bâtisseurs du Moyen-Âge, adeptes de l'art gothique. Mais l'effondrement montre qu'ils avaient sans doute outrepassé leur capacité technique. Avec cet incident, prend enfin l'élan spirituel qui avait conduit la chrétienté médiévale à chanter la gloire de Dieu à travers les lumineuses cathédrales gothiques.
Oui, bon, rien que ça.
Ça fait beaucoup. Bref, autant dire que ça s'est cassé la gueule. Voilà. En gros, résumer.
Bon, c'est trivialement dit, mais oui.
Voilà. L'histoire classique pour une cathédrale.
Bon, pas grand-chose là, à part, oui, l'indépendance de l'Albanie le 28 novembre.
L'Albanie.
À l'Albanie,
vous savez, ce fameux pays
bien sûr.
D'Europe de l'Est, qui est frontalier de
bien
la
sûr.
Grèce.
Bien sûr. La Grèce, ça loin, on t'attendait, voilà, pourquoi évidemment. T'as pas répondu? Et dont tous les habitants s'appellent Albans, bien sûr, oui. Et
oui, donc okay, allez, le 28 novembre 1912, Ismaël Kemal Vlorë proclame l'indépendance de l'Albanie. L'anniversaire de ce jour est fête nationale en Albanie, figurez-vous. C'est aussi l'anniversaire d'une première libération du pays des aigles, entre guillemets, par Skanderbeg en 1443. Et enfin, pour terminer, l'année 1956 se termine en beauté, entre guillemets, par la sortie le 28 novembre d'un film sulfureux.
Ah, pardon.
Par contre, excuse-moi, si tu veux faire un truc à ma place, il faut me le dire. Hein.
C'est que j'entends rien.
Donc je disais que l'année 56 est très importante parce que pour les moins jeunes d'entre nous se souviendront du fameux film avec Brigitte Bardot et Dieu créa la femme.
Tout à fait, merci beaucoup Thomas pour ces événements. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en ce 28
novembre. Ouais, on sent bien.
Mais on va passer avec toi, Salouane, qui va rehausser bien sûr les événements, puisque enfin les naissances ou les décès, hein, c'est ça, avec toi, Salouane. Que s'est-il passé? Qui est né, qui est mort en 28 novembre?
Eh bien, aujourd'hui, pour ce 28 novembre, nous avons deux naissances et deux décès. Alors, au niveau des naissances, on va commencer par Friedrich Engels, qui est né le 28 novembre 1820 à Barmen, en Allemagne aujourd'hui, et décédé le 5 août 1895 à Londres. Friedrich Engels, héritier d'une riche famille d'industriels, devint l'ami de Karl Marx, et publia avec lui le manifeste du Parti communiste en 1848. Stefan Zweig, il est né le 28 novembre 1881 à Vienne, en Autriche-Hongrie à l'époque, et décède le 22 novembre 1942 à Petropolis au Brésil. Né à Vienne dans une famille de la bourgeoisie juive, Stefan Zweig accomplit de belles études classiques tout en fréquentant les cafés littéraires de la capitale austro-hongroise et se livrant à sa passion, les échecs. Il multiplie les voyages à l'étranger, découvre la culture française, soutient une thèse de philosophie sur Hippolyte Taine et s'essaie à de nombreux genres littéraires. C'est ainsi qu'en 1899, à 28 ans, il publie un premier recueil de poèmes et en 1907, une première pièce de théâtre, Tersite. Pour les décès, nous avons donc Cesare Beccaria, né le 15 mars 1738 à Milan et décédé le 28 novembre 1794, toujours à Milan. Le marquis Cesare Beccaria publie le Sous le manteau à 26 ans, un opuscule voué à une grande célébrité, des délits et des peines. Homme des Lumières, admirateur de Montesquieu, il pose les principes d'une justice humaine et efficace. Ces principes sont repris dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils sont adoptés aujourd'hui par tout État civilisé qui se respecte. Présomption d'innocence, peine proportionnée au délit ou au crime, peine modérée mais sûre. Il déduit l'interdiction de la torture du fait que tout individu qui n'a pas été formellement reconnu coupable est réputé innocent.
Et 1794, j'imagine qu'il n'a pas dû passer un bon moment, quoique peut-être un petit peu, ouais.
Il est né en 38 quand
même.
Et le deuxième décès, c'est celui de Philippe Leclerc de Haute-Cloque, né le 22 novembre 1902 à Belloy-Saint-Léonard, en Somme, en France, est mort le 28 novembre 1947 à Colombéchard en Algérie. Leclerc est l'officier le plus représentatif de la France, libre en lutte contre l'Allemagne nazie. Il entre dans l'histoire de la France le 2 mars 1941, ce jour-là dans l'oasis de Koufra en Libye, tandis que l'Allemagne triomphe sur tous les fronts. Le colonel Leclerc fait avec ses hommes le serment de ne plus déposer les armes avant que le drapeau français ne flotte sur Strasbourg.
Merci beaucoup, Salouane. Et donc, on va terminer avec, bien sûr, la Fiesta del Día, la fête du jour, avec toi, Thomas.
Et oui, et nous fêtons la Saint-Jacques.
Ah, bien.
Jacques de la Marche, le saint du jour, donc c'est pas l'apôtre, est connu comme un grand prédicateur italien du XVe siècle. Il est mort à Naples en 1476.
Et le Saint-Jacques qui doit bien sûr être fan des fruits de mer. Merci beaucoup Thomas et on embrasse évidemment tous les Jacques, sachant qu'il y en a un très connu ici à la radio, qui d'ailleurs, je ne sais même plus s'il fait encore l'émission Accordéon. Faudrait que je redemande parce que je crois qu'il est en train de petit à petit laisser sa place, mais c'est une émission évidemment Accordéon qui, on le sait, sur Radio Alpa cartonne. On va marquer une pause musicale juste avant de passer à ta chronique, Thomas. Ça parle de quoi ta chronique?
Ça parle de restauration de tableaux.
Et oui, de restauration de tableaux. Juste avant ça, on va écouter War de Hypnotic Brass Ensemble. Hein, c'est ça le titre. Oui. Une musique que tu as découverte où?
Alors, en fait, je l'avais chasamé il y a quelques mois et je suis retombé dessus il y a deux jours.
D'accord.
Je l'ai intégré dans ma playlist parce que je me suis dit, là, j'ai fait le bon coup.
Eh bien, écoute, si tu as fait le bon coup, on va pouvoir faire partager ce bon coup aux auditeurs et aux auditrices. C'est parti, c'est Hypnotique Brasse Ensemble. Waouh. Sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, radioalpa.com, et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. Non, ça n'était pas Niska, contrairement à ce que certains ont souhaité. C'était, on redit le titre, Thomas.
War.
War, tout simplement.
De Hypnotique Brasse Ensemble.
De Hypnotique Brasse Ensemble, bien sûr. Et on va passer d'ailleurs, c'est bien que tu aies la parole, à toi, mon cher Thomas, puisque c'est à ton tour, on t'écoute, c'est parti, ça parle de restauration, de tableaux.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une... Si c'était à refaire, je pense que je ferais ça, honnêtement. Parce que, ouais, j'aime bien, c'est vraiment, ça exige de la minutie, de la concentration, parce que mine de rien, on peut pas faire n'importe quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Mr. Bean, un film catastrophe, lorsqu'il va en Amérique.
Oh, oh là là. Je crois que le dernier que j'ai vu, c'était quand il était en vacances, là,
en vacances en France.
Mais c'est tout.
Ouais, bah voilà, donc il y en avait un autre.
D'accord.
En fait, il travaille dans un musée.
Ouais.
Et il est envoyé en tant qu'expert, mais en fait tout le monde se fout de sa gueule parce qu'ils disent non mais l'autre il va rien faire, il va être foiré et puis on va pouvoir le virer comme ça. Et finalement il y a un échange d'œuvres entre le British Museum et puis un musée en Amérique. Donc il y va et en fait il fait des conneries parce que c'est une vieille dame. Qui est peinte, donc un truc qui a été fait aux États-Unis, puis ramené en Angleterre, pour finalement revenir aux États-Unis. Et il renverse un peu de... Ah non, il éternue dessus, donc il essaye d'enlever sa morve
qui est sur le tableau.
Et le problème, c'est que son mouchoir est taché d'encre bleue.
Ah non.
Donc, il prend le tableau, il va dans la réserve, il prend un truc au pif et puis il se secoue.
Ouais,
dessus, quoi.
Ouais.
Donc ça part, il est content, super, tout va bien. Et là, la peinture, elle commence à dégouliner.
Ah ouais.
Et là, bah, en fait, tout le sketch, c'est savoir comment ils vont faire pour...
Le restaurer, quoi, voilà, le remettre.
Bon, en fait, je vais spoiler, attention.
Non.
En fait, il n'y arrivera pas. Il enlève le tableau et il le remplace par une serviette.
Ah oui,
et
c'est
voilà,
une solution.
Et du coup, tout le monde y voit que du feu. Bref,
ah ouais.
Tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les tableaux parce que c'est très, 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 très fragile. Et d'ailleurs, le saviez-vous, avant de restaurer un tableau, combien de temps il faut-il attendre?
50 ans?
Et c'est plus.
Non, je crois que c'est autour de... C'est plus d'une centaine d'années.
Ah ouais.
Oui. C'est ça doit être
200 ans.
200 quelque chose, autour de, entre 114 et 200.
Alors, généralement, on nettoie une œuvre d'art une fois par siècle. Voilà.
Ah oui, d'accord.
On donne juste, juste cet ordre de grandeur-là. Parce que finalement, un tableau de moins de 100 ans, en fait, il est trop frais pour supporter un nettoyage.
Ouais.
Donc, tout simplement,
ça abîmerait la peinture.
Là, ça serait vraiment la catastrophe. Et en plus, un nettoyage d'un tableau, c'est vraiment une action qui répond à des motifs qu'on pourrait appeler de graves. C'est-à-dire une oxydation importante des vernis, où là, on ne voit plus le tableau, tout simplement. Des dommages causés par des vernis de mauvaise qualité, parfois ça arrive, en fonction des époques. On a différentes techniques pour faire les vernis et tout de suite, bah, 200 ans après, notamment, on le voit bien, hein, dans les églises, c'est là où notamment la restauration de tableaux se fait, où on voit bah, les vernis qui ont été faits au 16e, 17e ouais, siècle.
Bon courage.
C'est bientôt noir, on n'y voit presque plus à travers. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris. Il y a un immense tableau à Notre-Dame de la Couture, sur la partie droite. Eh bien, il a été enlevé. Donc, je pense qu'il est en restauration.
En restauration.
Alors, les mecs, ils vont se... Je sais pas, mais ils vont s'amuser.
Mais...
Parce que le machin, c'est pas 2 mètres sur 4. Hein.
C'est un grand tableau.
Ah, ben, oui, oui. On peut... ça fait pas un terrain de foot, mais bon, voilà.
Ah oui, compris, quand même.
Quoi. Non, mais c'est très, 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 très grand. Bref. Et tout ça pour dire que, finalement, la restauration de tableau, on ne fait pas n'importe quoi. N'importe où. C'est-à-dire que ça répond toujours à la même chose. C'est-à-dire, d'abord, un dépoussiérage, ensuite, on enlève le vernis, ensuite, on corrige les éventuelles imperfections au niveau de la peinture, et on remet un vernis, on remet un cadre, etc. Sachant que, parfois, si les peintures, les toiles notamment, sont vieilles, il faut faire très attention, parce que entre le cadre et la toile, bah, parfois c'est collé. Donc si vous arrachez tout à coup comme un sangouin, votre peinture, elle est déchirée. Et là,
Bon courage.
Là, va falloir...
Ça coûtera un petit peu plus cher, quoi.
Ouais, ouais, ah bah là, ça va
là,
coûter
faut une garantie,
très, très, très cher. Notamment sur les grandes œuvres assez grandes et ou chères. Parce que tout ce qui est rare est cher.
C'est Infinity sur les tableaux.
Ouais, voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire que la restauration de tableaux, je trouve ça assez bien comme métier, assez formidable, qui demande de la patience. Hein, je pense que si un jour on a l'occasion d'interviewer des messieurs dames qui restaurent des tableaux, notamment ceux de Notre-Dame de Paris, ils en ont profité après l'incendie. D'ailleurs, non seulement, ils étaient pleins de suie pour la plupart, mais d'autres exigeaient vraiment un nettoyage, quoi. Et du coup, bon, bah, là, je pense qu'ils ont dû s'amuser. Voilà, c'est bon.
Merci. Ah oui, non, pardon. Parce que
mais j'ai envie de dire, je complète sur ce que tu disais. Le nettoyage, c'est vraiment, en fait, dans tous les métiers de la restauration, moi je sais que j'ai regardé, j'ai juste gratté la surface pour tout ce qui est vitraux et les fresques à Asnières, notamment au manoir de la cour. Quand on a eu la chance avec l'équipe du manoir et les membres de l'association de faire une visite pendant la restauration des fresques à l'intérieur de l'église. Et je les vois, ils passent 10 minutes sur un petit carré de 10 cm, ils sont là, grain par grain, c'est une précision, c'est un travail de fou furieux, c'est hyper passionnant, et ils t'expliquent machin, et les découvertes qu'ils font, et tu vois, pour le grand public, c'est à rien, mais on a découvert une main, machin, un truc, après ça repart du coup dans des contextes et t'as toute l'histoire qui bouge juste parce qu'ils ont gratté un morceau. C'est fou. Et puis dans les peintures, pareil, on a eu ça aussi avec la Joconde. Ouais. Parce que justement, pendant toutes les phases de restauration, on a pu voir En fait, la Joconde, je crois qu'il y a 3 ou 4 tableaux de la Joconde derrière celui qu'on voit. Donc il y a tous les dessins préparatoires, les brouillons entre guillemets. Et en fait, on se rend compte que du coup, derrière la Joconde que nous on voit, il y en a peut-être 4 autres. Et c'est fou quand tu vois ça. Et ça, tu le découvres qu'à la restauration, machin.
Bah oui.
Et en fait, tu vois vraiment le travail de l'œuvre pendant la restauration, et tu te rends compte à quel point c'est vraiment un chef-d'œuvre.
Bah, t'as un peu accès au squelette du tableau, quoi.
Et t'as tout l'envers du décor, et c'est passionnant de fou. Les restaurateurs, vraiment tous les métiers de la restauration, ils ont des restaurations d'art, évidemment.
Oui, je pensais plunch et tout.
Restauration d'art.
Pas rapide.
Ils ont ils ont des métiers, mais hyper passionnants, mais hyper.
Exigeant,
c'est le mot, ouais. C'est un monde à découvrir.
Pour répondre à ce que tu dis sur les fresques, je pense que c'est 1000 fois plus compliqué que la restauration de tableau, sachant qu'elle est déjà compliquée.
C'est possible, ouais, ça doit être possible.
Ouais, parce que là, c'est vraiment, tu vois, si tu pioches trop dans le mur, là, c'est cuit.
C'est le mur, il n'y a pas de rattrapage.
Tier liste des restaurations les plus dures.
On a eu la chance d'avoir Marina Villeneuve qui est venue justement la restauration des livres.
Mais tu vois, rien que pour les livres,
c'est un travail gargantuesque.
Avec l'atelier Le Scribe des Bois.
C'est le mot.
Le Scribe des Bois sur Instagram, n'hésitez pas. Allez, la suivante, on a marqué une nouvelle pause musicale et ça y est, il est déjà l'heure, ça file à une vitesse, d'accueillir notre premier invité par téléphone, Luc Arbogast, je le redis. Vous le connaissez sûrement, mais si vous voulez déjà d'abord en savoir plus sur lui, eh bien on vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube qu'on a fait. Un moment incroyable puisqu'il nous a ouvert ses portes. Et puis là, c'est l'occasion surtout de parler de son actualité puisque l'hiver arrive et vous allez le voir, eh bien une actualité arrive également. On va écouter en attendant La Rébellion de Joe Arroyo, c'est bien ça?
Oui.
Une musique cubaine, Thomas, que tu nous
proposes. Oui, musique cubaine, espagnole, qui nous fait dire qu'on est bien sur une plage avec un petit mojito.
C'est vrai que c'est parfaitement dans l'ambiance hivernale. On se retrouve tout de suite avec Luc Arbogast. soir. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa. Toujours sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans, radioalpa.com, et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. Il est temps pour moi de faire une petite manipulation, hop, une manipulation magique qui va nous permettre d'avoir avec nous ici présent ce soir Luc Arbogast, à condition évidemment que ça fonctionne. Alors c'est parti, j'entame. Hop, est-ce que Luc, tu m'entends?
Mais tout à fait.
C'est incroyable puisque nous t'entendons également. Est-ce que vous, dans le studio, vous entendez également?
Il y a de la bête.
Un petit peu plus de son, s'il te plaît.
Plus de son. Alors, je ne peux pas me déplacer, vous voyez, parce que je ne peux pas être partout. N'hésitez pas à le faire. En tout cas, en attendant que ces messieurs osent se déplacer pour aller monter
en question,
hein. L'enceinte. Bien. Mais quel escroc, ce Thomas. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient évidemment pas encore notre invité, je le redis, mais on vous invite évidemment aussi à aller voir cette vidéo qui est assez incroyable et un peu intemporelle. Dans laquelle, on le redit, Luc, tu nous as ouvert les portes de chez toi. Et c'était d'ailleurs une expérience assez folle. Et on te remercie d'ailleurs encore pour ça. Mais l'heure aujourd'hui est pour parler de ton actualité, puisqu'on le sait depuis déjà plusieurs années même déjà, une année au moins, que tu es sur la tournée Via Antica. Là, l'hiver arrive, et oui. Et donc, c'est qui dit hiver dit songe d'une nuit d'hiver. C'est en gros du 1er au 20 décembre. Tu parcours un petit peu toute la France, c'est bien ça?
C'est ça, exactement, oui. Ouais.
Et alors, dans ce programme Songe d'une nuit d'hiver, qu'est-ce que tu vas proposer? Quelles chansons en particulier vont être proposées? C'est des cantiques, c'est bien ça?
Alors, le principe de Songe d'une nuit d'hiver, c'est un peu de proposer une veillée, telle qu'on la faisait au Moyen-Âge. Donc, des chants de Noël de tradition, des chants régionaux. Alors, on retrouvera des chants tels les Anges dans nos campagnes ou la Marche des Rois, évidemment, qui sont pour moi des sortes de standards, en fait, des fêtes de fin d'année, et qui sont surtout des musiques historiques. Mmh. Et puis, on va aller faire un tour aussi dans les chants de tradition allemande, avec Maria Turschein d'Ornwalding. Voilà, c'est une ouverture un petit peu sur l'Europe aussi. Mais surtout, moi, je m'intéresse aux régions, et là, on va aborder aussi les Noëls occitans, les Noëls du Béarn, un petit peu de contes, puis des traditions aussi, des traditions chantées, des chants de colportage en fait, hein, qui touchent à l'hiver. C'est pas que Noël, hein, c'est l'hiver en fait que je propose là.
Alors super, Luc, bonjour d'ailleurs.
Oui, c'est vrai qu'il se présente.
Ah oui, quand même, parce que j'ai pas dit bonjour. Alors du coup, est-ce que chaque ville aura une chanson en particulier ou ce sera principalement les mêmes cantiques partout?
Alors il faut quand même que j'avoue que j'ai eu un problème drastique dans la sélection des morceaux, parce qu'un concert doit durer 1h40, des fois ça dure un peu plus longtemps, mais j'ai dû dégraisser beaucoup dans les programmes que je chante, parce que j'ai beaucoup de chansons de tradition, et là j'ai dû vraiment choisir, je dirais, les plus pertinents. Alors de base, le concert, il y a une trame qui est globale et qui est commune à toutes les villes, mais il y a des interventions qui sont différentes. Par exemple, en Alsace, à Wingen-sur-Moder, j'ai la chance d'avoir Georges Aibar, qui est un ami d'adolescence, qui viendra interpréter un morceau de Michael Arpa avec moi sur le morceau de Nausicaa. Donc là, voilà, il y a une interaction comme ça qu'on propose, et ça sera que à Wingen. À Hammerschwihr, dans le 68, je vais jouer un morceau avec l'harmonie de la ville. Voilà, il y a toujours cette interaction. Ce qui m'intéresserait à terme dans ces tournées d'hiver, ça serait de carrément monter une sorte de chorale locale, ça serait absolument magnifique. Mais évidemment, en fonction de l'ambiance, en fonction de l'histoire du lieu où je me trouve aussi, je fais des interprétations de morceaux qui sont très différents. En Alsace, je vais aborder plutôt les Noëls d'Alsace. Là, quand je vais faire des concerts dans le Calvados, je vais aller farfouiller un peu dans les légendes hivernales du Calvados. Ouais.
Et j'en profite juste, mais quand tu disais par exemple, quand tu chantes en occitan, enfin, tu as chanté par exemple en occitan?
Il y a un morceau, oui, que ça s'appelle Lombarda, hein, exactement, oui, bien sûr. Mais okay. J'aborde le latin, le vieil allemand.
Ouais, donc un peu toutes les langues, ok.
Mais c'est l'occasion de faire découvrir, en fait, quelque chose de très pédagogique aussi là-dedans, je dirais, parce qu'il y a un jeune public aussi qui vient. Le concert, d'ailleurs, est gratuit pour les moins de 10 ans, évidemment. Et une démarche, je dirais, instructive, mais sans être aux élites, quoi. C'est vraiment une veillée. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment comme une veillée. Voilà, comme on la faisait, malheureusement, on peut pas faire un feu de camp. Mais voilà, on a cette notion, je dirais, de partage. C'est très familial et c'est très profond au niveau émotionnel. Il y a quelque chose de très très doux et de très prenant, je dirais, dans ces textes que j'ai choisis.
Bonsoir Luc, j'ai aussi une petite question.
Bonsoir.
Est-ce qu'on retrouvera du coup dans Songe d'une nuit d'hiver certains titres de Via Antica ou c'est complètement différent?
Alors ça n'a absolument rien à voir. Dans le sens où Via Antica, c'est une tournée qu'on fait aujourd'hui, qu'on joue maintenant depuis près de 2 ans, qui a pour but en fait de promouvoir le patrimoine, surtout le patrimoine historique, je dirais, in petra, quoi, vraiment les murs, les monuments, ce genre de choses. Là, sur la tournée Via Antica, j'ai volontairement réduit la voilure, en fait, d'un point de vue technique, déjà. C'est du semi-acoustique, hein, donc il y a une amplification, mais je joue sur les instruments anciens, j'aborde vraiment les textes de manière très très simple, très épurée, hein, volontairement comme le barde médiéval, hein, vraiment. Donc on a un morceau en commun qui est le morceau d'Arshan, en fait, qui est joué avec des instruments anciens et des instruments, je dirais, plutôt méditerranéens, en faisant référence évidemment du coup à Jérusalem, à la Terre Sainte, à ce genre de choses, quoi. C'est le seul morceau qu'on a en commun qui est un peu la clé de voûte de ce concert, quoi. Mais on retrouvera plus, dirais-je, des textes en français Via Antica. Il y a les hymnes évidemment qui sont inclus dans cette tournée qui est majestueuse, quoi. Mais là je vais plus m'intéresser au monde paysan, en fait, en réalité, là, sur cette tournée Songe d'une nuit d'hiver, puisque je crois que il y a une ferveur à l'époque médiévale dans les fêtes de Noël qui est très paysanne aussi. On va retrouver aussi le monde des superstitions, le monde de la préparation à l'hiver, voilà, je fais référence à des textes vraiment anciens et qui amènent l'auditoire, je dirais, dans une ambiance. Via Antica, c'est le cas aussi, mais c'est quelque chose que je trouve absolument magnifique dans le sens grandiloquent, et c'est vrai que c'est puissant, il y a une vraie puissance.
Plus spectaculaire encore, oui.
Voilà, plus spectaculaire, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, je te remercie.
Avec plaisir.
Et là, on va s'intéresser vraiment à l'intimité de la famille aussi, quoi. Voilà, c'est quelque chose de vraiment beau, et qui est complémentaire d'ailleurs, à mon sens.
Alors du coup, là, la question que tout le monde se pose, est-ce que l'ambiance de Noël, ça te parle ?
Alors moi, tu sais, je suis alsacien de cœur. Ma maman est allemande et mon père alsacien tzigane. Et c'est vrai que dans toutes ces civilisations qui font le cocktail de ce que je suis, Noël a une part très très importante. Et puis tu sais, quand on s'intéresse à la musique médiévale, on s'intéresse aussi beaucoup au celtisme, à cette transformation de la fête de Yule en fête de Noël aussi, ce genre de choses. Moi, l'ambiance de Noël, oui, je la trouve très intéressante. D'abord pour des raisons simples de se retrouver en famille. Voilà, moi j'aime ce côté clanique, en fait, de la famille. Et puis, je dirais, c'est l'entrée dans l'hiver, c'est une fête qui nous permet vraiment de se retrouver, comme dans les veillées médiévales, justement, pour se préparer à être tous ensemble pour passer l'hiver, quoi, parce que c'est exactement ce qui se passe dans la réalité initiale. Ensuite, s'en suivent l'épiphanie et ce genre de choses, et Pâques. Mais voilà, oui. Noël, il y a cette profondeur. Et puis quand on fait référence aux fêtes celtiques, Yule, c'est aussi le moment du renouveau. C'est-à-dire que là, on est presque, sans trop dire de bêtises, on est vraiment dans la notion de faire le bilan. C'est une notion du bilan de l'année, en fait, dans cette fête de Noël.
Et j'en profite pour le redire, mais tu as donc de nombreuses dates. Tu commences le 1er décembre à Sainte-Marguerite de Carouge, ensuite à Sainte-Suzanne au Centre Médiéval de Clairbois, on va les recevoir d'ailleurs dans un instant. Ensuite, le 3 décembre, enfin en tout cas ça c'est disponible tout ça sur son Facebook bien sûr, mais le 3 décembre dans le 14, le 8 décembre dans le 68, le 9 dans le 68 également, le 10 aussi, et puis après on te retrouve à Strasbourg le 14, à Münster le 15, à 16 à Sarrebourg. Le 17 à, alors pardon mon accent, mais Wingen sur Moder, ah merci. Et le 20 décembre à Yzeure, église Saint-Pierre. Donc ce programme qu'on peut retrouver sur ton Facebook notamment. Et tu le disais, oui, des particularités à chaque fois avec peut-être des événements ou des accompagnements musicaux. Mais repréciser aussi que cet argent est en partie reversé aux associations, c'est bien ça.
Alors c'est une démarche caritative. Si tu veux, je vais être tout à fait honnête, à l'époque, quand j'habitais à Strasbourg, étant jeune adulte, j'ai eu besoin des services d'associations caritatives. Je le dis en toute, ouais, en toute honnêteté, en toute humilité. Voilà, j'étais un petit peu accidenté de la vie à ce moment-là, et voilà, j'ai dû faire appel, notamment Caritas et ce genre d'association. Donc aujourd'hui, j'estime que j'ai une dette, en ayant acquis la notoriété, j'ai une dette, non pas une dette que je m'oblige, je me sens pas endetté de ça. Mais j'ai envie de rendre service maintenant, de renvoyer l'ascenseur, hein, tout simplement, et surtout de sensibiliser les gens aussi au fait qu'eux aussi peuvent donner. Alors, j'ai posté récemment sur les réseaux sociaux justement ce petit fascicule sur la banque alimentaire, notamment, voilà, quand il y a les dames qui sont là en train de, avec leur caddie, en train d'essayer de réunir des aliments. Voilà, par exemple, ça c'est une aide qui est possible, quoi. D'aller donner, mais ça peut être l'aide humanitaire ou l'aide caritative. Elle a des milliers de couleurs différentes, elle a des milliers de formes, c'est en fonction des personnes, hein, de donner à qui ils veulent. Moi je sais que je distribue à une cinquantaine d'associations différentes à mon rythme. Voilà. Après, ce que je trouve vraiment important, c'est d'être en avec soi-même, et puis d'apporter quelque chose quand on peut. J'écrivais récemment qu'en fait on peut offrir à ceux qui peuvent plus le faire, en fait.
Ça résume assez bien, c'est très bien dit et très bien écrit. Et encore une fois, on met en avant cette démarche, parce que c'est vraiment, pour le coup, une démarche qui est très respectable, et on invite évidemment les gens à venir massivement te voir. On le redit, hein, c'est sur ton Facebook, hein, notamment, en tout cas tes réseaux sociaux, pour s'inscrire à chaque fois sur les dates. C'est bien ça ?
Totalement, ouais. Tous les liens de réservation sont en place. Il faut comprendre une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui on est dans une époque où les gens sont un petit peu frileux, je dirais, sur les concerts, ce genre de choses, mais qu'il ne faut surtout pas oublier une chose très importante, c'est que si on se fait pas plaisir de temps en temps, ça sert à rien de vivre, quoi. Je sais qu'il y a là, au niveau des réservations, ça se passe super bien, des concerts comme Sainte-Marguerite de Kérouge qui sont vraiment quasiment complets, Cambremer idem. Là on a lancé on a été un peu tardif à lancer les réservations sur les concerts tournés en Alsace. Mais il faut s'y intéresser, dans le sens où cette tournée, elle est rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une tournée comme celle-là, c'est pas facile. Je prends l'exemple de Yann Tiersen, par exemple, qui fait actuellement une tournée, voilà, où il a vraiment réduit la voilure aussi, pour des raisons, en fait, de retrouver une forme d'humanité, de sortir, gérer du star system, et puis d'aller se mettre à porter. C'est valable aussi sur la tournée Viantica, où je suis vraiment très très heureux de jouer dans tous les endroits où je joue. Voilà, on parle vraiment de patrimoine, on parle de choses qui sont sacrées pour moi, quoi. Et là, sur cette tournée-là, elle est possible parce qu'elle est justement intimiste, et que, voilà, je pense que, indépendamment des Olympias ou des grands stades ou des 1000 ans de la cathédrale de Strasbourg ou de tous les grands concerts que j'ai pu faire, là je propose vraiment de me mettre dans une situation un petit peu plus intimiste. D'ailleurs, les jauges sont à peu près 300 personnes, ce qui est quand même, ça c'est des jauges réduites, voilà. Là, vraiment, donc le public peut, on demande de réserver, mais il faut savoir que sur tous les concerts il y a la caisse du soir aussi, parce que je connais mon public. Mon public a cette habitude d'arriver un petit peu tardivement comme ça, sur le concert, on dit allez, on y va, et puis et voilà, donc on a la caisse du soir qui est là, on se fie pas forcément aux réservations, mais voilà. En tout cas, faut savoir une chose, c'est que les concerts que je donne, la plupart du temps, sont tous complets, quoi.
Et bah oui, et puis ça, en plus, on a l'occasion à chaque fois de voir la billetterie complètement pleine. Et parmi les dates, on le redit, Clairebois, donc merci beaucoup, on va les accueillir dans un instant, même dans quelques minutes. Merci beaucoup, Luc Arbogast, on te souhaite évidemment plein de bonheur pour cette tournée. En plus, évidemment, faites-vous plaisir, c'est la période. N'hésitez pas donc à réserver en masse pour aller assister à tous ces beaux concerts qui arrivent. Merci beaucoup, Luc.
Merci de m'avoir accueilli sur la percée de l'histoire.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir et à très bientôt. Salut.
Au revoir.
Évidemment, on va enchaîner. Alors, problème technique, hein, je vous le dis. Normalement, on est censé avoir un jingle palette, etc. Mais je n'ai plus rien. Donc, on va. Je peux même pas mettre de musique. Je vais essayer de broder. En attendant, les amis, j'ai un appel. Je vous laisse peut-être parler un petit peu.
Bon. Eh ben, on doit meubler.
Ouais, on doit meubler. Eh, c'est dingue.
Donc, une belle tournée, une belle démarche de la part de Luc.
Bah oui, non, franchement, c'est très bien. Sa démarche est bien. C'est vrai que là, je faisais la réflexion, c'est vrai que tu donnes, toi, aux associations ?
Alors, j'ai pas la capacité de donner. En fait, moi, je suis plutôt de l'autre côté. Je reçois beaucoup des assos. Et bah, sans elle, je ne serais pas grand-chose. Ouais. Donc j'espère pouvoir un jour aussi pouvoir rendre l'appareil. Mais c'est vrai que quand on est étudiant, ce genre de choses, ce genre de petits moments où, comme Luc l'a dit, la vie fait qu'on est un petit peu accidenté, ces assos-là nous sauvent la vie. Donc merci à lui de faire cette démarche-là et de penser ce genre de pratique.
Oui, c'est sûr. Ouais. Là, je donne juste un petit peu à Amnesty International en ce moment. Ça fait quand même un an.
Ouais.
Et je crois que je vais arrêter. Je vais passer à une autre association.
Okay, ouais.
Mais j'aimerais bien, tu vois, faire du...
Allô, pardon, je reviens. Pardon, excusez-moi, je vous coupe totalement.
Pardon,
mais on a un autre invité. Voyez, parce que alors là, c'est catastrophique. J'ai plus d'ordi, j'ai plus rien. Je peux plus lancer de musique, donc ça va être vraiment full impro pendant. Voilà, c'est super la technique, ça fonctionne toujours bien. Mais heureusement, Franck Rulot est avec nous. Bonsoir, Franck. Comment vas-tu?
Bonsoir à toute l'équipe.
Salut, Franck.
Ça fait plaisir de t'entendre. Comment tu vas?
Ouais, ça va. En pleine préparation, mais ça va.
En préparation, pourquoi? Mais que va-t-il se passer ces prochains jours, Franck? Dis-nous tout.
Eh ben, comme a annoncé Luc, il sera à la Ferté-Clairbois samedi soir à 20h pour son concert.
Ouais.
Donc, comme on avait annoncé un petit peu partout sur les journaux et tout ça, et le lendemain, le dimanche, nous allons faire le premier marché de Noël. Alors nous, on va plutôt l'appeler le marché Saint-Nicolas, puisqu'au Moyen-Âge, le Père Noël, on n'entendait pas trop parler. Donc il va se passer de 10h à 19h dans la halle couverte du centre médiéval de Clairbois.
Alors pour réserver tout ça d'abord, peut-être pour redonner l'information à nos auditeurs, c'est toujours sur Hello Asso, c'est bien ça?
Alors pour le concert c'est sur Hello Asso, mais on peut aussi nous appeler, hein. On a eu des appels aujourd'hui.
D'accord.
Directement sur mon téléphone portable où on a des réservations pour samedi soir direct.
Et alors, au niveau des artisans, ou en tout cas du marché, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver au marché? Sachant que peut-être on pourra en profiter aussi pour faire un appel s'il y a des artisans qui veulent vous rejoindre, puisque j'ai vu que vous cherchiez, ou à moins que vous ayez déjà peut-être trouvé à nouveau des nouveaux artisans.
On a retrouvé des... On est quand même sur de l'artisanat. On adore l'artisanat et on essaye de remplir le marché. Bon, c'est la première année, on va doucement, on va présenter du cuir, on va présenter différentes choses. Donc voilà, on va avoir une petite équipe d'artisans et puis on aura une grosse animation avec des artistes de magie, jonglerie, percussion, avec notre équipe de Brocoli Circus. Alors, je sais que vous êtes venu au Féodal de Clairbois, vous avez peut-être... C'est la même équipe qui faisait les lancers de hache, je sais pas si vous vous souvenez, quand vous êtes venu au Féodal.
Alors attends, laisse-moi réfléchir. Là tout de suite ça me dit rien, mais je pense que
j'étais là. C'était la toute première, parce que je suis allé à la première édition moi. Mais après quand on est repassé pour avec Luc Arbouès, moi j'étais pas là, j'étais au travail. Mais est-ce que c'était cette journée-là?
Peut-être, ouais. Donc c'est une bonne équipe, alors qui nous a rejoint en plus pour l'année prochaine, puisqu'elle sera complètement là tous les week-ends l'année prochaine. Donc encore une nouvelle animation pour les Féodales de Clairbois qui se remettent en route tranquillement. On va rattaquer en avril.
Ah oui, vous préparez déjà les Féodales pour avril là ?
Ah oui, pratiquement toutes les compagnies sont pratiquement en place, préservées là pour le deuxième week-end de chaque mois à partir d'avril jusqu'au mois d'août.
D'accord, ah oui, donc...
Ah oui, sacré programme.
Un sacré programme.
En plein travail.
Ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Au niveau, il y aura évidemment, j'imagine, aussi à manger, j'espère, pour le marché de Noël.
Ah oui, Noël, ça...
Quand même, c'est le repas avant tout.
Il y aura des petites... du vin chaud, ça fait
du vin chaud, oui, c'est bon.
Même pas un peu d'Hippocrate?
Un peu d'Hippocrate, c'est ça que t'as dit?
Non, l'Hippocrate, on le garde pour les Féodales de Clairbois.
Ça reste réservé. Eh ben en tout cas, on vous invite toutes et tous à venir en masse, encore une fois, parce que ça va être un événement assez incroyable. C'est le tout premier en plus que vous faites.
Oui, donc, c'est le tout premier, ouais.
Vous avez déjà pas mal de réservations un petit peu, là, ça commence?
Pour Luc?
Pour Luc, oui, évidemment, et pour le marché.
Pour Luc, ça a bien tourné cette semaine, comme disait Luc, un peu de retardataire, comme d'habitude.
Ouais, évidemment. Les derniers indécis.
Ouais, mais il y a encore de la place, On peut venir voir le concert.
Et c'est parti, on le redit, c'est pour le concert le samedi 2 décembre à partir de 20h, c'est ça?
Oui, à partir de 20h, oui.
Et pour toute la journée ensuite, après, le dimanche 3, à partir de, c'est quelle heure? 10h, non? Je sais plus.
19h.
10h, 19h.
19h, ouais, voilà.
Et le rendez-vous est pris.
Et puis la venue de Saint-Nicolas.
Et la venue, évidemment, de Saint-Nicolas qui sera sur place, rien que pour nous, en direct, de Clairbois. Merci beaucoup.
de toute façon, il y aura de la billetterie directement sur place pour le concert de Luc.
Ah oui, d'accord. Pas besoin de venir forcément réserver. Les derniers indécis qui voilà, voudront payer directement sur place pourront aussi le faire.
Il y a la billetterie sur place aussi.
Hein. Ok,
y a
voilà.
Pas de problème. On a une bonne tribune pour mettre tout le monde.
Eh bien, parfait.
Génial.
Alors, le rendez-vous est pris et donc si vous avez encore des petites hésitations, n'hésitez pas même au dernier moment à venir sur place et régler directement votre place pour le concert. Merci beaucoup Franck.
Pas de souci, au plaisir.
Et à merci très vite.
Franck, une bonne soirée à toi.
Allez.
Ciao, ciao. Et on enchaîne puisque il y a toujours pas d'ordinateur. Ah oui, on a même le hop avec le bip, c'est bip. Exceptionnel ce soir mesdames et messieurs. J'adore les problèmes techniques. On va terminer avec un petit quiz là rapidement. Salouane, s'il y a deux trois questions.
Eh ben, on est parti.
On est parti. Alors, même chose, on va pouvoir, je vais envoyer peut-être, on va poser deux, trois questions, hein, sans plus. Je vais envoyer le numéro de téléphone à notre auditeur pour qu'il gagne absolument.
Donc, je choisis les questions les plus compliquées.
Exactement. C'est quoi déjà le numéro 24, 37, 37.
On a une petite là, comme ça, pour rigoler, là.
Là, tout de suite, surnommé la bataille des trois empereurs, considéré comme le chef-d'œuvre tactique de Napoléon Bonaparte. Qui suis-je? Non, c'est juste pour Thomas.
Ah oui, pour Thomas, pour le chauffer. Allez, c'est parti, ça enchaîne à ton
La bataille des trois empereurs.
Emblématique?
C'est ça.
Bon, bah,
le chef-d'œuvre tactique de Napoléon.
Ouais, c'est stériliste.
Bah oui.
Allô,
bonsoir.
Bonsoir. Comment vous appelez-vous, monsieur?
Présentez-vous rapidement.
Hein, non, leader, enchanté.
Bah, oui, enchanté. Première fois sur. Première fois sur la percée de l'histoire.
Exactement. Oui, oui. Je suis un grand passionné pourtant d'histoire, mais, comme vous allez pouvoir le constater.
Eh ben, on va pouvoir tester tout ça. C'est parti. On va démarrer avec le petit quiz. Alors, je suis désolé. Hein, j'ai pas l'habillage musical. J'aurais pu le mettre, mais là, c'est ce que j'ai dit, c'est que le PC a complètement craché.
Du direct, c'est pas grave.
Exactement. On improvise, mais c'est pas grave. C'est parti, Salouane. C'est
on
à toi. Première question.
On est reparti
pour notre auditeur.
Deux batailles, donc la première le 1er août 1798 et l'autre le 25 juillet 1799 portent le même nom, sauf que l'une est une bataille navale et l'autre est une bataille terrestre. Il s'agit numéro 1 de la bataille de Trafalgar, numéro 2 de la bataille d'Aboukir ou numéro 3 de la bataille d'Alexandrie.
Ah, j'hésite entre les trois.
Comme ça.
Je dirais la numéro 2.
Eh ben c'est une bonne réponse. Pourquoi t'as choisi cette réponse-là?
J'ai un doute. Oui. Comment?
Pourquoi tu as choisi la numéro 2? Est-ce qu'il y a une raison en particulier ou c'est le pif total?
Je vais garder les explications pour moi-même.
D'accord, secrets, très bien.
Il y a quoi à gagner d'ailleurs? Vous n'avez pas dit
On verra plus tard. Mais en fait, on fait gagner après coup, généralement 3 semaines, sous 3 semaines.
Je rappellerai si j'ai pas gagné.
Voilà.
Ok.
Une dernière question assez simple. Bonaparte a-t-il créé ou non la Légion d'honneur?
Je dirais non.
C'est faux, c'est vrai. Est-ce que tu peux me donner une autre création qui est attribuée à l'empereur?
Je sais qu'il est né en Corse.
Oui.
Oui.
Il faisait chaud dans la ville.
Il faisait chaud.
Il faisait chaud dans la ville.
J'ai pas entendu.
Il faisait chaud dans la ville.
Ah oui, il faisait chaud dans la ville, oui, sûrement.
Et donc la question. Ah oui, une autre création.
Une création attribuée à l'empereur. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On en retrouve quand même pas mal.
Est-ce que t'as un indice, Salouane?
Pense au scolaire.
Le riki, oui.
Un examen scolaire.
Le baccalauréat.
Le baccalauréat,
oh
exactement.
Là là, qu'est-ce qu'il est
inventé
fort.
Par Bonaparte. Et le baccalauréat, tu le prépares?
Comment?
Le baccalauréat, tu le prépares dans quel établissement?
Le lycée.
Dans le lycée, aussi une invention
qui est également de Napoléon.
Ah, purée, mais quel homme.
Mais j'imagine que tu le savais déjà, ça, leader.
oui, non, mais bon, voilà. Je veux pas non plus tout gagner.
Voilà, il faut en laisser. C'est dommage, t'as eu une mauvaise réponse, donc t'es passé à côté d'une superbe voiture Jeep Renegade. Bon, bah voilà, écoute, okay. C'était à ça,
dommage.
Ça s'est joué à rien, dommage.
Bon, mais c'est pas grave, je retenterai ma chance la semaine prochaine.
Exactement, merci à toi, leader, se passe une excellente soirée. Yes.
Ciao les gars.
Au revoir.
Ciao, bonne soirée.
À bientôt, au revoir.
Et c'est déjà la fin pour nous de cette de cette émission qui s'est plus allée, moins s'est allée finalement au niveau technique. Mais c'est pas grave, on s'amuse toujours. En attendant, passez une excellente soirée. Je peux même pas faire de transition avec le jingle, mais c'est pas grave. On va passer comme ça du tout au tout avec une petite musique qui va. Attendez, je vais vous dire, c'est Wave Machine Unwood. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, messieurs.
Au revoir.